Je suis Pascal Lemerrère, le créateur des Journées de l'économie. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 11e édition. Alors j'avais choisi un titre qui me paraissait important, « Que sait-on de notre futur ?» Et je ne sais pas si vous avez été Place de la République où il y a une exposition avec nos portraits d'économistes. J'y tenais qu'on ait des économistes au moins qu'on puisse regarder, qui s'incarnent avec des figures. Et j'étais un peu désespéré parce que je vois François Bourguignon qui a répondu à ma question « Évidemment, on ne sait rien ». Et ensuite Agnès Benassiquéré qui répond « De toute façon, on ne sait pas grand-chose ». Heureusement, j'ai un grand témoin, Sherazade Zemzar, qui est là, qui elle a dit « Mais oui, il y a quelque chose d'essentiel, il va y avoir une grande transition vers l'intelligence artificielle ». Comme quoi, il ne faut pas trop faire confiance aux économistes, qui sont toujours très pessimistes quand on leur parle de l'avenir. Moi, j'avais écrit un édito que je trouvais déjà assez long, en ayant des idées sur ce qu'on pouvait raconter. Eh bien, on va voir si nos économistes, pendant 3 jours, vont être un petit peu plus prolixes que ce qu'ils nous ont dit dans cette exposition que vous pouvez aller voir rue de la République. Et pour commencer, eh bien, on va voir ce que les Français disent sur les grandes questions, à leur avis, qui vont déterminer notre avenir. C'est le micro-trottoir qu'on va regarder maintenant ensemble.
Aider à la création d'entreprises, c'est important. Plus on créera des entreprises, plus on aura de l'emploi.
Je me suis dit, on a des villages qui sont délaissés. Du coup, il y a des infrastructures qui existent. On a des appartements qui sont libres. Il y a des espaces vides en France. Du coup, pourquoi pas redynamiser ces espaces, donc reconstruire des sortes de micro-sociétés, des micro-entreprises dans ces endroits pour les repeupler.
L'éducation, ça me semble prioritaire, effectivement. Mais ça prend du temps. C'est sûr que si on travaille sur l'éducation aujourd'hui, ça va prendre une vingtaine d'années.
Peut-être qu'il faut encourager des initiatives citoyennes de petite échelle. Voilà. J'ajouterais aussi qu'il faut être plus innovateur.
Par exemple, ce qu'ils font dans les pays du Nord avec éventuellement le revenu de base.
Les conflits armés que je crains le plus et le réchauffement climatique aussi.
La situation écologique, ça m'inquiète. La situation politique dans un certain nombre de pays, ça m'inquiète, qui sont des risques pour la démocratie et pour la liberté des individus.
Le climat, c'est le plus grand problème géopolitique.
Les effets plutôt néfastes de la mondialisation, on va dire, déjà sur le climat. Plus le climat, ouais, vraiment orienté écologie, parce que c'est quelque chose au-delà de l'économie qui peut impacter définitivement tout le monde.
Les inégalités au niveau de la nourriture et des ressources, donc tout ce qui est accès à l'eau et à la nourriture.
L'accès à l'éducation.
L'inégalité de richesse entre nous, par exemple, ici, et les pays les plus pauvres.
Il faut être en grande ville pour voir les gens qui dorment dans la rue sur des couvertures. Ça m'a fait drôle tout à l'heure.
On a quand même un système social qui est quand même assez puissant par rapport à d'autres pays.
Bah, plus de bourses déjà. Même si ça existe, en vrai, l'accès, il est pas donné à tout le monde, on va pas se mentir.
Ce serait peut-être les mélanger avec ceux qui sont favorisés.
Je pense que ça passe par l'accès à l'éducation, mais aussi une plus grande ouverture d'esprit de la part des employeurs.
Tout ce qui est alternance, etc. Je suis dans la filière de l'expertise comptable, donc à la base, c'était pas vraiment quelque chose qui était pourvu à l'alternance. Et là, j'en fais partie, donc c'est vraiment une chance d'avoir des études pour tout le monde, parce qu'on a un vrai salaire, comme si on travaillait.
Je pense que la mesure qui fait qu'on diminue de moitié les effectifs dans les classes de CP et de CE1, c'est quand même pas mal.
La Chine, certainement, parce qu'elle investit énormément en Europe et en Afrique.
Le Canada. Alors aujourd'hui, je ne vais pas dire la France, l'Allemagne, ou je dirais l'Europe. La Chine et l'Inde.
Les États-Unis qui essayent de se défendre. L'Europe a sa carte à jouer, mais ça a l'air compliqué apparemment en ce moment, si on écoute tout ce qui se dit.
Les États-Unis, dans 10 ans, seront encore assez forts. L'Europe, si elle arrive à garder son unité, ce qui va être difficile.
Travailler sur les bonnes causes, se concentrer plus sur et l'éducation et la santé.
Que les Européens retrouvent leur pouvoir citoyen. Voilà.
qu'on l'a bâti trop vite avec la quantité que nous sommes aujourd'hui.
Il y a de la fiscalité différente dans tous les pays de la zone euro. Donc forcément, n'importe quel pays va choisir la meilleure fiscalité, ou même pour les gens. Donc si on fait quelque chose d'homogénéisé, tout le monde serait au même niveau et puis tout le monde pourrait se développer ensemble, quoi, avoir une zone euro. Je crois que c'est ce qui était prévu à la base, je ne suis pas sûr, mais il paraît que c'était ça.
Il faut simplifier le système institutionnel et administratif de l'Union européenne.
L'accès au télétravail. En France, on est largement en retard.
Mettre plus en avant l'employé plutôt que les résultats au début.
C'est faire confiance aux salariés et arrêter de les fliquer à tout prix, à leur demander de badger pour vérifier qu'ils ont bien fait leur 35 ou 39 heures par semaine.
C'est accompagner les équipes, avoir un peu d'empathie. Je pense que déjà, d'avoir un esprit de groupe dans une équipe, on est déjà beaucoup mieux. Et quand on sait qu'il y a un petit peu d'empathie et qu'on fait attention aux gens, ça fait déjà beaucoup mieux.
Bon, vous voyez qu'il y a une énorme richesse dans les réflexions des Français dans ce micro-trottoir. Et ça se termine d'ailleurs par le travail, faire confiance ici aux salariés. Et je pense que c'est une des premières questions que j'ai envie de poser et que je poserai ici à Jérôme Madet, hein, qui est le membre du directoire en charge du pôle finance et opérations de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. On a l'impression que sur les questions de travail et de réussite professionnelle, c'est peut-être un des sujets qui sensibilise le plus les Français sur, dans l'avenir, on pourrait faire beaucoup mieux dans ce domaine-là.
Oui, alors, ceci dit, le micro-trottoir est très intéressant. Hein. Je trouve les personnes très spontanées, très dynamiques. Effectivement, leurs réflexions pointent vraiment sur les sujets d'actualité. Hein, vous l'avez dit, hein, la qualité de vie au travail, l'éducation, l'accès à l'emploi des personnes défavorisées. Alors, pour répondre à votre question, je vais prendre deux casquettes, si vous me le permettez. Hein, celle d'employeur, hein, au sein de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, et celle de manager. En tant qu'employeur, vous savez, nous, on a la chance, à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, quelque part, d'avoir des sondages en grandeur nature. 3000 collaborateurs, 300 agences, donc il y a des choses qui nous remontent tous les jours. Et effectivement, le télétravail nous était remonté il y a quelques années. Donc on a travaillé sur le sujet, on a signé un accord, et aujourd'hui, c'est une vraie réussite. Hein. Il y a 140 personnes qui bénéficient de ce télétravail, soit à domicile, soit sur site distant. Et c'est une vraie réussite. Vous savez, je regardais un sondage qui dit que 67% des Français, avant de choisir un emploi, regardent s'il y a accès au télétravail ou pas. 67%, c'est quand même 2 Français sur 3, on voit qu'il y a effectivement un engouement très fort. Et deuxième chiffre, chiffre du ministère du Travail, plus 25% de télétravail par an. Donc on disait dans le film tout à l'heure qu'il y avait du retard, je crois qu'on comble petit à petit ce retard. Moi j'y vois différents avantages, hein. D'abord pour l'employeur, on a essayé de le mesurer au sein de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, et finalement on s'est aperçu qu'il y avait un gain de productivité par rapport au télétravail, alors que c'était plutôt une crainte qu'on avait, hein, par rapport à ce gain de productivité. Deuxième avantage, alors, il faut le dire quand même, puisque le sujet d'écologie revient, quelque part on diminue l'empreinte carbone avec moins de déplacements, c'est pas l'essentiel du télétravail. Et troisièmement pour le collaborateur, c'est quand même plus de souplesse, un gain de temps, et puis surtout, ça a été dit également dans le micro-trottoir, c'est vraiment une marque de confiance, je trouve, une autonomie qui lui est donnée, une marque de confiance entre l'entreprise et le collaborateur, et je trouve qu'aujourd'hui c'est quelque chose de très important. Deuxième casquette, celle de manager. Il y a deux choses qui m'ont marqué dans le micro-trottoir. Hein. C'est tout ce qui concerne l'accompagnement et tout ce qui concerne l'esprit d'équipe. Alors sur l'accompagnement, moi j'ai plutôt pointé sur l'accompagnement au changement. Vous savez, il y a une phrase qui dit que la seule chose constante est le changement. Hein. Et effectivement, nous sommes dans un monde qui bouge en permanence, en ébullition, en évolution, voire en révolution dans certains secteurs. Donc je pense qu'on a un rôle très fort, hein, employeur et manager, d'accompagner nos collaborateurs. Les rassurer, leur ouvrir les yeux. Il y a vraiment un sujet d'employabilité de demain. Je pense qu'il faut travailler beaucoup plus sur les savoir-faire et le savoir-être que sur les savoirs. Vous savez, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années qui dit toujours que 60% des emplois, je crois que c'est une étude aux États-Unis, hein, 60% des emplois ne sont pas connus aujourd'hui en 2030. 60%. Donc vous voyez qu'il y a un vrai sujet de travail à faire vis-à-vis de nos collaborateurs. Et enfin, dernier sujet, l'esprit d'équipe. Moi, je suis un farouche partisan du travail collectif, de la transversalité. On a un vrai rôle de travailler en équipe, de faire des gestions de projets, que les équipes se mélangent, que les équipes travaillent ensemble, discutent ensemble. Moi, je trouve que c'est fondamental, encore plus aujourd'hui qu'hier, surtout dans une société où l'individualisme ne cesse de progresser. Voilà un peu mes réactions à chaud par rapport à ce micro-trottoir.
Merci. Et la confiance, on y reviendra, parce que c'est certainement des sujets qui va traverser ces trois journées. Il y a quand même, dans les sujets là, qu'on voit traiter, des priorités qui sont évoquées par les Français, qui disent voilà ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation économique de la France. Je me demande si ces questions sont en résonance aussi avec, par exemple, ce qu'une métropole, comme la métropole de Lyon, peut se poser comme question sur comment améliorer notre situation. Et évidemment, c'est une question, à mon avis, qui est tout à fait destinée à Fouzia Bouzerda, qui est notre deuxième vice-présidente de la métropole, en charge de l'économie et de l'insertion, et la huitième adjointe au maire de Lyon.
Oui, moi, je rebondis sur ce que vous dites, sur le fait qu'il y a beaucoup de métiers qu'on ne connaisse pas, mais il y a beaucoup de métiers qui n'existent pas encore. Et on va avoir une vraie révolution, et on a aussi une vraie révolution dans les comportements, dans le rapport aussi à l'entreprise, dans le rapport à l'emploi. On parle de télétravail et on parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat. je suis désolée, je perds ma voix. En 2017, on a eu 20 000 créations d'entreprises. Et c'est un chiffre particulièrement important de progression, puisqu'en 2002, on était à 6 000. Mais sur ces 20 000 créations d'entreprises, la moitié sont des auto-entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on s'est saisi d'un statut parce qu'on a aussi une volonté, alors parfois il est subi, mais parfois il est choisi, pour une transition vers un autre emploi. Et ça c'est important parce que le rapport au travail a changé, comme le rapport au comportement a changé, avec aussi une empreinte très forte sur ce qu'on appelle l'économie sociale solidaire, la volonté d'avoir une empreinte forte hein, sur les aspects de solidarité, mais en même temps de pouvoir effectivement avoir un emploi, et de participer à une vraie politique de conviction sur certains sujets. Et tout ça fait qu'on a à la fois un sujet économique très fort, on a à la fois la volonté, et on le voit dans le cadre du dossier de préparation sur la manière où les craintes, les aspérités, la confiance, eh bien on a un mix de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on a un rapport aux usages différents, à la propriété différent, à la consommation différent, mais à l'économie aussi, le rapport s'est modifié. Et donc, c'est vraiment la volonté d'accompagner. Et donc, d'accompagner l'entrepreneuriat, c'est de mettre en œuvre et de donner des outils. Et c'est en ça, effectivement, que pour la métropole, l'économie, le développement de l'entrepreneuriat, le développement des pépinières, la mise en œuvre d'une communauté d'acteurs, eh bien, permet aux personnes de se saisir de cet outil. Quand j'étais au lycée, ça remonte à un petit moment, on avait un sondage un peu percutant qui disait que 3/4 des lycéens souhaitaient être fonctionnaires et 80% de leurs parents souhaitaient qu'ils soient fonctionnaires. Et on voit, il y a toujours beaucoup d'autocensure, c'est un statut qui fait un peu peur, mais on voit qu'aujourd'hui, les politiques qu'on met en place permettent d'accompagner ce changement et permettent aux entrepreneurs de se saisir des outils. Une entreprise, ce n'est pas qu'une start-up, même si c'est un modèle qui se développe bien, mais une entreprise, c'est aussi la capacité de déterminer qu'on fait un choix volontaire et qu'on adhère. Ce n'est pas forcément simple, mais ça dénote. Aujourd'hui, quand on dit on a peur du futur, on voit quand même que la progression d'entrepreneuriat s'est confortée. Et quand on est dans une période de crainte par rapport au futur, en général, c'est pas forcément d'adéquation avec le développement développement et la création d'entreprises. Voilà. Donc sur une métropole, c'est aussi peut-être plus simple parce qu'on a vraiment des outils qui sont mobilisés et qu'on a une politique forte sur le territoire d'accompagner les créateurs d'entreprises avec ces vecteurs forts, avec cet accompagnement aussi à la formation et aussi parce qu'il faut se le dire, hein. Dans des territoires métropolitains, on a aussi beaucoup d'enjeux d'accompagnement à l'insertion, parce que c'est un territoire attractif, mais c'est aussi un enjeu de faire en sorte que toutes les richesses produites puissent être profitables au plus grand nombre, et que les personnes concernées par l'insertion, c'est-à-dire éloignées de l'emploi, puissent en profiter en étant accompagnées, en bénéficiant de formations. Donc là, je me tourne vers la région, et de formation sur des filières qu'on appelle en tension, parce que le paradoxe, c'est qu'on a à la fois des gens qui ne sont pas qui recherchent de l'emploi, et à la fois des employeurs qui ne trouvent pas à pourvoir certaines filières où on peut effectivement mettre à disposition la formation, mais on peut aussi vous trouver un emploi et pour autant, vous n'avez pas de candidat. Et l'objectif, c'est de créer des actions, des occasions de rencontres, pas très loin. Donc, on a eu récemment le village des entreprises, c'est-à-dire qu'on est, quand vous parliez de modification aussi de l'importance du savoir-être, on entend beaucoup d'entreprises, parce qu'il y a de l'attention et parce qu'elles n'arrivent pas à recruter, qui sont plus, qui axent moins sur le diplôme. Et on a aujourd'hui tout un accompagnement au recrutement sur les compétences, sur les habiletés, en développant des politiques, en développant des méthodes de recrutement et en développant même des logiciels qu'on mettra ensuite à disposition à l'ensemble des entreprises, identifier les compétences et qui permet effectivement de ne plus recruter sur quelque chose d'assez, décisif et péremptoire, qui est par exemple uniquement sur diplôme et sur CV comme on le voit. Et ça percute les usages et on le fait aussi parce que justement quand l'activité redémarre, on est moins regardant et on est moins figé sur nos habitudes de recrutement quand on est employeur.
Donc on a des territoires qui relèvent des défis actuellement, qui vont écrire aussi une page de notre futur. L'autre dimension qui était dans ce micro-trottoir qui me tient particulièrement à cœur cette année, c'est la dimension européenne. Je pense qu'on est dans une période de grande perplexité. Si vous regardez le programme, vous devez voir qu'on a beaucoup insisté volontairement en pensant qu'il fallait qu'on partage très largement avec vous la réflexion sur ce sujet. Et là, je me tourne vers mon grand témoin, parce que je pense qu'elle est particulièrement bien placée. Les Français nous disent quand même dans ce micro-trottoir un certain nombre de pistes sur qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité pour que ça marche mieux en Europe. Et je pense que Scheherazade, la directrice de Politico, va pouvoir nous répondre. Et je vous conseille au passage de lire Politico.
Merci, absolument, n'hésitez pas. merci beaucoup. Non, ce qui est étonnant, d'abord, c'est le micro-trottoir, la qualité des remarques extraordinaires, la qualité des remarques sur l'Europe extraordinaire, éducation, santé, le citoyen, est-ce qu'on a grandi trop vite, qu'il faut plus de flexibilité, revoir les institutions. Et peut-être de les regrouper dans les trois thèmes clés. On a les élections européennes cette année, au mois de mai. En tant que citoyen européen et vivant à Bruxelles, je ne peux dire à quel point ça sera des élections excessivement importantes. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a peut-être une demande dans ce micro-trottoir de demander de plus d'implication, de rapprocher peut-être l'Europe du citoyen européen. Ce qui manque, et peut-être ça manque par moment quand on devient trop technicien, trop grand, et on a perdu la vision qui fait rêver, la vision qui a fait que l'Europe a pu se construire, et on sent qu'il y a sûrement une impulsion. Alors, c'est très difficile de traduire ça, l'élargissement, ils en ont parlé de manière très ouverte, trop vite, trop rapide. En tant que chef d'entreprise avec des bureaux dans 4 villes européennes, je peux vous dire, le marché unique du travail est difficile. De faire travailler un Allemand à Bruxelles après le passer à Paris, je ne parle même pas de Londres parce que bon, ils vont se partir, mais c'est excessivement compliqué, des problèmes de TVA. Et il y a une vraie demande, et ça va à l'entrepreneuriat, ça va à l'avenir, de aussi simplifier, aller vers une vraie marché unique de l'emploi pour les entreprises, pour qu'il y ait une vraie fluidité, comme il y en a aux États-Unis, comme il y en a en Chine, parce qu'on parlait aussi des autres puissances. Il y a une opportunité pour l'Europe historique dans un monde malheureusement qui est en train de redevenir unilatéral, de jouer un rôle assez important, de se mettre en face d'autres puissances qui aujourd'hui ne croient plus, et on en parlera peut-être plus tard, au multilatéralisme qu'on a connu. Et je pense que les trois thèmes, et puis je pense la dernière, la jeune femme qui a dit, qui parlait des institutions, et ça c'est la question qui fait peur. Ça fait peur à Bruxelles. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu les institutions, les simplifier? Je ne sais pas combien de personnes dans la salle savent comment une loi est votée, combien de temps ça prend. Et en effet, ça, il faudrait que tout le monde le sache et que ça soit simplifié. En tout cas, une grande année, beaucoup de sujets, un moment peut-être historique pour l'Europe, qu'on va en parler, je pense aussi, à la prochaine table ronde. Mais la clairvoyance des Français est extraordinaire, en tout cas.
Merci beaucoup. J'en profite sur l'Europe pour rappeler que le jeudi 8 novembre, on aura une conférence sur l'avenir politique de l'Europe et on vous propose de participer à un sondage. Il y a des propositions qui ont été faites par nos intervenants et je trouve que ça sera très intéressant d'avoir votre avis en répondant à ce sondage. On ouvrira la conférence avec les réponses que vous aurez données aux trois questions. Il y a trois intervenants qui ont chacun posé une question à laquelle ils voudraient que vous répondiez. Au-delà de l'Europe, il y a encore une autre dimension quand même dans ce micro-trottoir qui a l'air de retenir beaucoup l'attention, c'est la Chine, l'Asie, qui deviendrait la zone qui va dominer l'économie mondiale. Est-ce que ça veut dire que nos vieilles économies sont en déclin, que c'est la logique, on a connu ça sur le temps long, le fait que des zones économiques comme ça reculent par rapport à d'autres. Et je me posais la question, par rapport à cette économie globale, est-ce que ça veut dire que les territoires ne sont plus des acteurs pertinents qui pourraient jouer un rôle dans cette dynamique? Et je pense que Annabelle André-Laurent est très bien placée pour nous répondre, parce qu'elle est vice-présidente déléguée aux entreprises, à l'emploi et au développement économique, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales. C'est incroyable, c'est une profession autant de choses à faire pour une seule personne, en tout cas au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je pense que ça serait intéressant entre la Chine et le territoire, on pourrait dire un peu ce grand écart, est-ce qu'il n'y a pas des logiques, des dynamiques que vous voyez pouvoir se dessiner aujourd'hui?
Alors déjà, bonjour à tous. La Chine, l'Inde, les États-Unis ne nous font pas peur. Moi, je suis très confiante. Auvergne-Rhône-Alpes, première région industrielle de France, 500 000 emplois dans l'industrie. Une ETI française sur deux est en Auvergne-Rhône-Alpes. On a 2900 ETI avec des niches, des pépites. Je citerai Vika, Seb, Salomon, Michelin. On est à la pointe de l'innovation dans le domaine de la santé, dans l'agroalimentaire, dans la montagne, dans le sport, dans de très, très nombreux domaines. L'évolution actuelle de l'industrie pourrait, j'allais dire, être inquiétante. On voit effectivement la Chine, l'Inde ou d'autres pays qui mettent du protectionnisme, des taxes douanières, des quotas. Mais nous, on a les savoir-faire en France. Sur notre région, on a les savoir-faire, on a l'image de marque, on a la qualité, on a les formations, on a des ingénieurs extraordinaires. On a un écosystème qui fait que nos entreprises sont extra-innovantes. Auvergne-Rhône-Alpes, 242 milliards d'euros de PIB, on a le PIB du Danemark. On est une région qui exporte avec une balance commerciale positive, excédentaire, grâce à l'innovation de nos entreprises. Donc oui, on a des partenariats commerciaux, on a des entreprises qui exportent en Chine, on a des entreprises chinoises ou des investisseurs qui s'intéressent à des entreprises de la région ou françaises grâce à cette image de marque, à la qualité. L'évolution industrielle dans laquelle nous sommes actuellement, la révolution digitale, managériale, environnementale, est extrêmement positive aussi pour nos entreprises. On a ce savoir-faire, on a la qualité, on a les compétences, on a des consommateurs de plus en plus conscients aussi de leur pouvoir d'achat, ou en tout cas des répercussions. Je dis souvent, on a chaque individu a deux pouvoirs, la carte électorale et la carte bleue. On a beaucoup de consommateurs qui aussi maintenant regardent d'où viennent les produits. Avec cette conscience, on achète français, on achète local, on achète circuit court. Et l'évolution du digital qui fait que, j'allais dire, le travail à la chaîne qui pouvait aussi nous faire peur en Chine avec des produits qui étaient peu chers, fabriqués, évolue. Maintenant, on a des travailleurs qui sont fortement qualifiés, hautement compétents, qui travaillent sur des machines qui sont connectées, qui évoluent dans la data, qui coûtent un peu plus cher aussi. Et là, la compétence rentre en jeu. Les compétences, les ingénieurs qu'on forme sur les territoires font la différence aussi dans la qualité des produits. Nos industries ont un réel avenir avec cette montée en compétence, cette savoir-faire, cette qualité. Donc oui, on va travailler d'égal à égal avec d'autres pays, mais on a cette force industrielle qui, à mon avis, a toute sa place et encore plus sa place demain qu'hier dans le marché international. À nous maintenant, au niveau politique, de libérer aussi un peu le travail, de faire que nos entreprises soient un peu moins fiscalisées, qu'elles puissent être dans la course aussi à même hauteur que les autres pays. Juste un petit exemple sur l'industrie française. 80 milliards d'euros de charges et de taxes sur notre industrie, quand sur l'industrie allemande, cela représente simplement 10 milliards d'euros. Donc on a un vrai problème aussi de concurrence par rapport aux autres industries internationales, mais on a ce savoir-faire qui fait la différence. Donc on travaille avec les autres pays, mais je suis très confiante dans l'avenir de nos industries qui innovent en permanence.
Ça ouvre pratiquement déjà une conférence qu'on aura sur demain, un autre regard sur la France. C'est pratiquement ce qu'on vient d'entendre. Et la question des réformes, eh bien, ça me fait penser immédiatement au sujet qu'on va aborder, parce que les Français vous en parlent. Dans le sondage qu'on va aborder maintenant, les Français et l'économie, c'est Marc-Olivier Strauss-Kahn qui va vous le présenter. Hein, c'est le directeur général et conseiller spécial du gouverneur de la Banque de France. C'est un sondage maintenant traditionnel, mais vous allez voir que cette année, je trouve qu'on a des réponses qui sont tout à fait passionnantes par rapport au sujet qu'on va aborder pendant les 3 jours.
Bonjour, c'est un vrai plaisir que de revenir chaque année devant vous. Et c'est vrai, le micro-trottoir vous a offert une sorte de kaléidoscope avec des images et des points de vue individuels assez contrastés. Le sondage que je vais présenter maintenant, qui n'est pas le même que celui auquel vous allez répondre pour jeudi, c'est une sorte de roman photo. Il vous offre une histoire, il vous raconte une histoire plus structurée, plus chiffré, avec des comparaisons dans le temps. Et vous le verrez, il est assez surprenant, il est très riche et il met à bas un certain nombre de clichés. Alors, il est fait comme d'habitude sur la base d'un échantillon par quota. L'enquête a été faite en octobre et il va être présenté en 3 parties avec à chaque fois des commentaires. D'abord, l'intérêt des Français et leurs besoins d'information. Puis, les acteurs et les défis économiques, et enfin, la situation économique en France et les perspectives pour l'Europe. Alors d'abord, l'intérêt des Français. Chaque année, c'est à peu près une majorité qui s'intéresse, assez ou beaucoup. 2017 avait vu une poussée, probablement due aux débats électoraux. Elle retombe, cette poussée, elle ne l'efface pas complètement. Et ce que l'on peut noter, c'est que parmi ceux qui s'intéressent le plus, et vous les voyez en bleu ici dans le sondage, ce sont plutôt les plus diplômés, les retraités, qui sont assez nombreux, je les vois à l'orchestre. En revanche, ceux qui apparemment s'intéressent moins, 16% ou pas du tout, 16% des Français, c'est avant tout, et ça c'est inquiétant, les moins de 35 ans. Ceux qui sont plutôt là-haut, sur les gradins, et heureusement, ils sont venus. C'est un doublement quasiment par rapport à l'année dernière, et c'est quelque chose que les GECO doivent contribuer à réduire. Alors, y a-t-il un lien avec la connaissance en économie ? Je le crois. Beaucoup de Français estiment qu'ils ont une connaissance moyenne, mais ceux qui estiment qu'ils ont une connaissance faible sont 2 fois plus nombreux, 30%, que ceux qui considèrent avoir une connaissance assez ou très élevée, 16%. Parmi ceux qui ont une connaissance très élevée, ou qui le pensent du moins, c'est bien sûr les diplômés du supérieur, et je ne l'ai pas précisé, il y a aussi pas mal de retraités. En revanche, dans ceux qui considèrent qu'ils ont une connaissance insuffisante, on retrouve les moins de 35 ans. Et là, il y a peut-être un cercle vicieux, on s'intéresse moins, on apprend moins, et donc on s'intéresse moins. Et puis, je voulais noter au passage, sans exagérer là-dessus, un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes qui s'auto-censurent, qui se dévalorisent peut-être, qui font preuve de modestie, autre façon de présenter la chose. Et on verra qu'il y aura un débat aussi demain sur l'inégalité des genres, y compris en économie. Maintenant, quel est le besoin d'information des Français ? Traditionnellement, c'est l'emploi et donc le chômage qui vient en premier. Cette année, il y a une remontée dans le peloton de tête et à égalité avec l'emploi des préoccupations et du besoin d'information sur l'inflation. Et fondamentalement, ça concerne bien sûr les catégories socio-professionnelles les moins favorisées, ce qu'on appelle les CSP-, et puis les retraités. Et fondamentalement, ça correspond à une réalité. L'inflation est bien remontée entre l'année dernière et cette année, 1,3% en septembre dernier, plus de 2% en septembre et en octobre de cette année, calculé sur 1 an. C'est ce que l'on voit ici. Pour autant, les Français estiment-ils bien l'inflation ? Eh bien, cette année, et pour la première fois, ils ont tendance à la sous-estimer. Vous le voyez ici, par le mode, ce qu'on appelle le niveau le plus élevé, la plupart des Français pensent que l'inflation a augmenté entre 1 et 2%, alors que je l'ai dit tout à l'heure, l'inflation totale, elle, a augmenté d'un peu plus de 2%. Traditionnellement, les Français surestiment l'inflation, les consommateurs d'une manière générale surestiment l'inflation. Comment explique-t-on ça en tant qu'économiste? On dit souvent que c'est parce qu'ils voient moins, ils achètent moins souvent des produits dont les prix baissent, comme ceux de l'informatique. Un PC, par exemple, ça s'achète que tous les 3-4 ans, pas plus souvent. En revanche, les prix de produits qui peuvent varier beaucoup plus, et on est frappé plus à la hausse qu'à la baisse, comme par l'essence, qui fait parler beaucoup en ce moment, on les voit plus et ça donne une perception d'une inflation plus forte que la réalité. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Quelle peut être l'explication? Les économistes ont cette caractéristique que, quelle que soit la situation, ils ont toujours une explication. Elle peut être l'inverse de celle qu'on a dit auparavant, mais ce n'est pas gênant. Et là, c'est l'inertie. Les Français, pendant plusieurs années, ont été habitués à une inflation basse. Ils perçoivent que l'inflation a augmenté, mais ils la sous-estiment quand même. Il y a une autre explication. Et vous savez, on dit souvent qu'il n'y a pas d'économiste manchot. Ils ont toujours deux mains, l'une pour dire d'un côté et l'autre pour dire de l'autre côté. Et c'est un peu ce que je vais faire avec une explication qui est plus positive sur les connaissances des Français. En fait, il y a deux façons de mesurer l'inflation. Ce qu'on appelle l'inflation totale, qui inclut le prix de l'essence et de l'alimentation, et ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, celle qui l'enlève, ses prix plus volatiles. Et celle-ci, elle augmente bien à un niveau plus faible, c'est-à-dire entre 1 et 2%. Et peut-être que les Français, finalement, ne sont pas si mauvais que ça en économie et en ont la perception.
Alors, sur ce premier sujet, d'abord, peut-être que les Français ne sont pas si mauvais que ça en économie et qu'ils ont aussi un regard sur les économistes. Je vous rappelle que la conférence finale, hein, ça sera vraiment sur ce sujet, justement. Qu'est-ce que vous pensez que les économistes vous apportent? Est-ce qu'ils bricolent des savoirs qui vous sont utiles? Ça, j'aimerais beaucoup avoir votre regard là-dessus, parce que c'est 11 ans de travail des GECO que vous allez remettre en cause si vous n'êtes pas d'accord avec l'approche que je peux avoir. Vous me faites peur. Mais en tout cas, il y a une chose dont je suis absolument convaincu sur l'histoire des connaissances. On voit bien que les Français estiment qu'ils ont des connaissances moyennes ou un certain déficit de connaissances. Or, souvent, les connaissances de notre environnement, ça nous aide à prendre des décisions. Et donc, si on pense qu'on a un déficit de connaissances, c'est difficile d'agir. Et donc, je serais tenté de poser la première question à Annabelle André-Laurent, hein, puisque c'est un véritable enjeu là pour aussi au niveau régional. Est-ce qu'il y a un déficit de formation, d'information des citoyens, et comment on pourrait le combler s'il est insuffisant aujourd'hui, ce niveau?
Écoutez, j'allais dire, il y a certainement un déficit d'information des citoyens. On peut le combler alors déjà par des journées comme aujourd'hui, où on informe les citoyens sur l'économie, sur à quoi ça sert. Il faut beaucoup de pédagogie. On voit aussi dans le micro-trottoir, on a parlé de beaucoup, c'est sur l'économie, on a parlé beaucoup de sujets, on a parlé d'environnement, on a parlé d'éthique, de télétravail, mais qu'est-ce qu'une entreprise ? Moi, j'ai été très surprise dans le petit film qu'on a vu. L'entreprise, sa fonctionnalité première, c'est de créer de l'emploi et de la richesse. Je crois qu'il faut le rappeler en permanence. Et alors, il y a beaucoup de préoccupations, mais je ne l'ai pas entendu dans le petit film qu'on a vu tout à l'heure. L'entreprise, c'est ça. Et je pense que dans toute l'information ou dans les médias, dans les communications, il ne faut pas oublier que c'est quand même le premier rôle de l'entreprise. Après, il y a le RSE, dont on parle beaucoup, avec l'impact social, environnemental. Ça fait partie aussi du rôle de l'entreprise, mais le premier, c'est créer de la richesse et de l'emploi. C'est d'innover en permanence. Alors oui, il y a un certain manque d'informations, mais je crois que globalement, lorsque je vois l'évolution de la consommation des citoyens avec cette vraie responsabilité, le circuit court, l'éthique, où on regarde d'où viennent les produits, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même une certaine responsabilité des consommateurs. Et finalement, le fait qu'ils aient une vraie responsabilité dans leurs décisions d'achat font qu'ils connaissent quand même un petit peu, en tout cas, l'importance du pouvoir d'achat, l'importance de consommer local et la répercussion que ça peut avoir sur le milieu économique.
Mais si on devait agir un peu efficacement, parce que c'est quelque chose qui est récurrent, hein, au fur et à mesure dans les sondages.
Agir efficacement, c'est en parler ici, en parler dans les médias, c'est dans les formations. Mais ça commence, j'allais dire, nous, la région, on a les formations, l'apprentissage, les lycées où on peut faire de la pédagogie sur l'économie, mais je crois qu'on en fait déjà. Mais c'est apprendre déjà tout petit qu'un consommateur est responsable. Donc chaque citoyen est responsable aussi dans l'instruction, dans l'éducation, dans la communication. Et donc à chaque fois qu'on organise des forums, des salons, on parle aussi de consommation, d'économie et de voilà. Et je vais dire, on est tous responsables aussi. On est tous acteurs aussi dans la communication et la pédagogie sur l'économie. Et c'est ce que je disais, je pense que les Français se sous-estiment un petit peu. On est habitué au French bashing, hein, que ce soit sur l'industrie, que ce soit sur nous en général. Mais je pense qu'on peut être relativement fier de nos connaissances également. Je pense que les Français connaissent quand même assez l'économie et le rôle qu'ils ont, et je ne suis pas trop inquiète pour ça.
Merci. Je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'institutions qui participent aux Journées de l'économie et qui s'impliquent dans ce travail, et la Banque de France est un des premiers. C'est peut-être un acteur de plus en plus visible dans cette formation, et on va pouvoir continuer avec la deuxième partie du sondage.
Merci Pascal. Alors, il me rappelle à l'ordre, là, j'ai oublié de faire la publicité pour nous. C'est vrai que c'est dans une mission de la Banque de France, elle est opérateur national pour l'éducation économique et financière, c'est-à-dire qu'elle offre un portail qui s'appelle mesquestionsdargent.fr ou mqda.fr, je vois que tout le monde note ça, pour avoir plus d'informations et accéder à des données qui sont fournies par, pas simplement la Banque de France, mais des associations et beaucoup d'institutions en France. Et puis, deuxième petite publicité, il y aura que cela, demain, en fin d'après-midi, et en particulier pour motiver les jeunes, nous remettrons un prix pour les meilleures vidéos qui ont concouru au challenge Citeco Vidéo. Citeco, c'est la cité de l'économie que la Banque de France va inaugurer l'année prochaine à Paris. Mais le site internet existe déjà, c'est citeco.fr. Alors je vais passer maintenant, après cette petite page de publicité, à la suite du sondage, c'est-à-dire qu'on va aller voir quels sont les grands défis économiques et les acteurs au niveau mondial. Alors, on l'avait évoqué dans le micro-trottoir, on rappelle aux Français, petite question de connaissance ici pour une fois, que les États-Unis, si on mesure la puissance économique par ce qu'on appelle la production intérieure brute, les États-Unis sont en premier actuellement. Et on pose la question de savoir qui est numéro 2, qui est numéro 3, etc. Les Français, en général, répondent que c'est la Chine qui est en seconde position, et puis vient la zone euro, c'est-à-dire l'ensemble des 19 pays qui partagent la monnaie unique. Le Japon, l'Inde viennent bien après. Ils ont relativement raison. En réalité, à taux de change courant, en 2017, la zone euro et la Chine étaient à peu près à jeu égal. Mais comme la Chine progresse beaucoup plus vite, dès 2018, elle est devant, et dans les 10 ans à venir, ça se voit dans le micro-trottoir, c'est la Chine qui se situera bien avant. Sans la zone euro, la France toute seule, elle, serait bien loin derrière, en septième position. Si vous cumulez la Chine et l'Inde, vous retrouvez cette image qu'on a eue auparavant de l'importance de l'Asie. Quels sont les grands défis, les grands enjeux au niveau mondial? Le premier, suivi de très près par le second, c'est les inégalités, le chômage, la pauvreté, d'une part, et d'autre part, le changement climatique. Le changement climatique est venu plusieurs fois dans le micro-trottoir. Ici, il est en bonne position, mais la perception des inégalités l'emporte. Et ceci est vrai aussi chez les plus jeunes. Il est vrai qu'il y a ensuite une troisième question sur les flux migratoires. Et certains flux migratoires sont liés au changement climatique. C'est l'essentiel des résultats qu'on peut trouver là. C'est important à voir sur les inégalités sociales. Les Français prouvent qu'il peut y avoir une augmentation des inégalités telles qu'ils les ressentent, pas nécessairement telles qu'elles sont dans la réalité. En réalité, la pauvreté au niveau mondial baisse et les inégalités entre pays diminuent. En revanche, à l'intérieur de certains pays, elles ne diminuent pas, comme en France, voire elles augmentent aux États-Unis, en Russie, en Chine. Et surtout, la perception, la comparaison avec le voisin fait que cela déforme un peu la réalité. Le changement climatique, était dans le micro-trottoir le premier. Ici, il ne vient qu'en second, même si c'est très rapidement. C'est un sujet de plus long terme et dont la prise de conscience doit encore s'accentuer. Face à ces refis, face à ces défis, quels sont les principaux acteurs, ceux qui peuvent relever le gant? C'est avant tout les gouvernements nationaux. C'est un peu paradoxal parce que les défis qu'on a vus tout à l'heure existaient au niveau mondial. Mais chacun perçoit qu'il faut agir aussi au niveau local pour résoudre des problèmes globaux. Loin derrière viennent les citoyens eux-mêmes, mais néanmoins en deuxième position, puis les organisations européennes et internationales qui sont apparemment souvent décriées et qui viennent avant les entreprises et surtout avant d'autres, les collectivités locales, les partenaires sociaux, etc. On s'est intéressé ensuite à une des sous-questions, puisque les inégalités et le chômage étaient en première position, qui est le taux de chômage en France. Il faut savoir qu'il est plus élevé et parmi les plus élevés de la zone euro. C'est-à-dire qu'il n'est pas dû à la monnaie, puisque nous partageons tous la même monnaie. Donc qu'est-ce qui peut faire, aux yeux des Français, qu'il y a un taux de chômage persistant plus élevé? La première réponse, mais elles sont assez regroupées, vous le voyez, 47% pour les charges fiscales et sociales trop élevées, et puis arrive le système éducatif et de formation inadapté, dont on en a souvent parlé, et on revient toujours sur ce thème de l'éducation qui est venu 7 fois dans le micro-trottoir. Après, il y a les erreurs, les aides et prestations qui pourraient être trop élevées, enfin le code du travail, qui pourtant a été réformé et qui, de façon persistante, apparaît comme trop rigide. Et je rapprocherai ça de l'information suivante, qui est assez paradoxale et qui concerne l'avis des Français sur le besoin ou non de continuer à alléger les normes réglementaires, dont le droit du travail. C'est le premier graphique en haut. Et de façon assez étonnante, non seulement il y a une très forte majorité, 2/3 des Français, mais elle est en augmentation. Après la loi El Khomri de 2016, après les ordonnances de 2017, les Français, et plus 6 points, c'est significatif, ne disent pas qu'il faut arrêter, disent qu'il faut continuer. Bien sûr, ce n'est pas tous les Français, mais c'est 2/3 des Français. Et c'est en particulier les jeunes. En revanche, dans le graphique du bas, on voit qu'une question qui est un peu plus vague et qui est sur la libéralisation reste plus clivante. Il y a une très légère majorité, 51%, pour libéraliser l'économie plus au sens de la compétition et de la privatisation de certains services publics. Je n'exclus pas que le fait que la question soit un peu vague et qu'on ne dise pas, par exemple, quel service public contribue à influencer les réponses. Et ce que je trouve un peu paradoxal, c'est, même si on retrouve derrière cela, je ne les donnerai pas, mais les résultats de la gamme des opinions politiques, c'est parmi les catégories socioprofessionnelles les plus élevées, qu'il y a plus d'opposition à cette libéralisation. Et il y en a moins du côté des CSP-, qui sont donc plus favorables à cette libéralisation.
Alors cette deuxième partie là, est, je trouve, particulièrement intéressante sur les défis économiques à relever tels que les Français les regardent. On voit bien que le premier sujet de préoccupation, c'est les inégalités, le chômage, la pauvreté. Et ce qui est quand même assez curieux, ce qu'on voit là, c'est que le défi à relever, on attend de l'État et des citoyens, ces deux entités, de jouer un rôle. Et les réformes, c'est-à-dire là d'activer la concurrence, on attend finalement que l'État soit l'acteur aussi qui active la concurrence. Et dans tout ça, ce qui m'a un peu surpris, c'est que le local n'est pas très présent. Vous avez vu que les collectivités locales ne sont pas les acteurs dont on attend le plus. Or, pourtant, on parle énormément des initiatives sur les territoires. Et donc, c'est pour ça que je suis tenté de me tourner vers Fouzia Bouzarda pour lui dire comment ça se fait que les défis à relever sont finalement quand même très centrés sur ce qu'on attend de l'État. Et avec cette question, pour l'État devrait faire baisser le chômage, si je simplifie beaucoup.
Oui, parce que on est quand même un pays très jacobin, c'est notre histoire, et on attend beaucoup effectivement de l'État. Il y a une décentralisation qui a été mise en œuvre dans les années 80. Alors on peut déplorer qu'elle ne soit pas allée jusqu'au bout, qu'elle soit insuffisante. Pour autant, en tout cas sur notre territoire, un certain nombre de collectivités et notamment la métropole s'est saisie de ces politiques et les a mis en œuvre. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on parle de libéralisation, de simplification de code du travail, considérant que les normes réglementaires seraient un frein à toute la mise en œuvre des politiques. Et c'est effectivement, ça rejoint effectivement un besoin essentiel et indispensable, c'est-à-dire de savoir quel levier on peut mobiliser et donc quelle politique utiliser. Et ce qu'on appelle la simplification, c'est de donner de la lisibilité à nos politiques. Et ça, c'est un vrai enjeu, mais c'est aussi un vrai enjeu métropolitain. Quand on parle de simplification des institutions, on pense à l'Europe, mais on pense aussi à nos collectivités où nos compétences sont dissociées. Et donc, l'enjeu des métropoles, c'est aussi de s'en saisir. À Lyon, sur la métropole, on avait un conseil général à l'époque et une communauté urbaine. D'un côté, je schématise, l'aménagement, l'économie, l'urbanisme. De l'autre côté, les politiques sociales. Il y a une fusion sur le territoire donc des communes métropolitaines. Il y a une fusion de ces deux collectivités qui sont désormais intégrées dans ce qu'on appelle la métropole de Lyon et qui est une collectivité de plein exercice. Qu'est-ce que ça permet de faire? D'abord, ça permet d'enlever une couche au millefeuille administratif, ce dont on parle souvent. C'est une initiative qui est locale, ça a été porté par des élus locaux, ça a été fortement porté. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet d'utiliser des leviers économiques pour pouvoir effectuer des efforts et en tout cas pouvoir accompagner les politiques sociales. Quand on a récupéré la politique d'insertion dans cette nouvelle métropole, qui est née qu'en janvier 2015. Quand on a récupéré cette politique de l'insertion, on ne l'a pas classée ou catégorisée dans la délégation sociale, non. On l'a intégrée à la politique économique de la métropole et on a mobilisé le rapport aux entreprises, le travail sur les filières, toute cette expertise en matière d'aménagement, en matière de marché public, en matière d'économie, on l'a mise au service de cette insertion pour travailler avec les entreprises, initier ce qu'on appelle la charte des 1000 entreprises et faire en sorte que même si l'entreprise, son objectif, c'est de créer de l'emploi et de la richesse, c'est aussi de la richesse parce qu'elles ont besoin de personnes qui travaillent, d'un territoire riche où chacun peut trouver son opportunité de consommer, de travailler, de vivre, d'habiter. Et donc, ça, c'est ce dont on s'est saisi localement, sans attendre forcément, effectivement, toutes les politiques de l'État ou du gouvernement. Ça nous impacte parce que le législateur reste le législateur au niveau de l'État, mais dans le cadre et dans les cases qui sont faites, nous nous saisissons de la libéralisation, de rendre nos politiques plus lisibles, c'est-à-dire d'avoir un guichet unique, une maison métropolitaine d'insertion qui est mise en place, une politique lisible et une mobilisation de la richesse pour le territoire, en fait. Que chacun puisse effectivement s'épanouir sur son territoire, c'est ça avant tout. Et ce sont aussi, j'allais dire, on est dans une période où l'innovation sociale, c'est de l'innovation. On parlait beaucoup de transition écologique, et ça, c'est un vrai enjeu. Donc le consommateur, on est absolument conscient, et les territoires s'en saisissent. Ils s'en saisissent parce que la mise en œuvre d'un plan climat, c'est la mise en œuvre d'une vraie politique locale. C'est-à-dire que vous avez beau avoir des outils au niveau national, vous êtes aussi maître sur votre territoire de considérer que ce sont des politiques fortes. Et donc, vous accompagnez la rénovation de l'habitat, vous accompagnez le changement de l'énergie, vous accompagnez la manière, la respirabilité. C'est un facteur d'attractivité pour une métropole, de mieux respirer. Nos habitudes ont changé. Les jeunes générations ne passent plus forcément le permis. Dans des zones très urbaines comme la métropole, elles se saisissent des moyens de transport. Et tout ça, c'est un enjeu d'accompagnement. Et nous accompagnons ces mobilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi de transition énergétique nous impose en 2025, par exemple, de n'acheter plus que des bus propres. Bus électriques, hydrogène électrique, gaz bio. Et donc l'objectif, ce n'est pas d'attendre la deadline, et c'est le choix de faire et d'anticiper cette transition pour se dire que sans attendre 2025, Désormais, le Citral n'achète plus que des bus propres parce que c'est à la fois un facteur d'attractivité, c'est un facteur de santé publique et c'est une exigence forte que nous avons tous, nous, parents, enfants, pour cette politique de mise en œuvre. Et c'est aussi les choix qui se déclinent sur le territoire. C'est se saisir des outils, mais ne pas attendre de l'État et de considérer que d'ores et déjà, sur notre territoire, nous pouvons mettre en œuvre toutes ces politiques d'innovation sociale qui rencontrent aussi un vrai levier économique, parce que n'oublions pas que l'organisation de toutes ces filières, c'est de l'emploi. L'accompagnement au numérique, c'est de l'emploi. L'accompagnement à la transition énergétique, ce sont des modèles économiques qui sont en cours de développement, justement, et qui sont non délocalisables, pour le coup.
On prolongera ces réflexions, puisqu'on va parler du véhicule autonome, par exemple, dans les journées de l'économie, ou de l'intelligence artificielle, ça sera nos grands sujets. Mais je crois que c'est les inégalités entre les territoires qu'on va aussi aborder, est véritablement quelque chose qui préoccupe très, très largement les gens. Et l'insertion sociale dans les métropoles. On a une conférence avec Montréal. Ça, je trouve que c'est absolument passionnant, parce que ces grandes métropoles, de plus en plus grandes, ont certainement des défis d'insertion sociale qui se sont transformés au fil du temps. On va passer à la troisième partie du sondage, qui sera sur la situation économique et l'Europe.
Exactement. Alors, les Français sont toujours pessimistes. Et il y a toujours plus de Français qui pensent que ça va aller moins bien que de Français qui pensent que ça va aller mieux. Et c'est le cas encore cette année. Il y avait une très forte embellie en 2017 et elle correspondait à la réalité économique. Il y a eu une très forte croissance exceptionnelle. On n'avait pas vu ça depuis avant la crise. En France, avec 2,3% et en zone euro, avec 2,5%. Là, les Français, à juste titre, pense que ça ne va pas continuer au même niveau et que ça va baisser un petit peu. Donc il y a un regain d'inquiétude sur la situation économique. Pour autant, et là j'aime bien signaler ce paradoxe, alors que les Français sont pessimistes, il y a une façon plus positive de voir les choses et de se dire que la moitié des Français, une majorité, voit se maintenir la croissance, pense qu'elle va se maintenir, voire même augmenter. Alors qu'on était dans un pic. Et pourtant, on nous annonce, la Banque de France y compris, que la croissance cette année va être plutôt autour de 1,6 et probablement dans les années qui viennent. Pourquoi cette baisse? Parce qu'on revient, après une situation un peu exceptionnelle, à ce qu'on appelle la croissance de long terme. Pour augmenter cette croissance de long terme, il faut que les réformes qui sont en cours agissent, et ça, cela prend du temps. Et les Français le perçoivent. Et donc, ils voient la croissance redescendre un peu dans les années qui viennent. Maintenant, que pense-t-il de l'Europe? Pascal, tout à l'heure, a parlé d'une perplexité. Et il est vrai, on le voit, quand on pose la question de savoir ce qui pourrait être remis en cause versus ce qui ne sera sans doute pas remis en cause, les Français sont très partagés et ce qui pourrait être remis en cause, en orange dans le graphique ici, apparaît assez prédominant. Ça ne veut pas dire que les Français le souhaitent. Ils peuvent en être au contraire inquiets. Alors il y a des cas de figure où le fait que cela augmente très légèrement, mais le chiffre est significatif à 68%, c'est la politique agricole commune. Beaucoup de monde en parle. Ça n'est pas très étonnant qu'on pense qu'elle pourrait être remise en cause. À l'inverse, en bas du graphique, on voit qu'il y a toujours deux piliers. D'une part, le Parlement européen et d'autre part, l'euro. Bien sûr, on peut faire remarquer qu'il y a une légère décroissance de ceux qui pensent qu'il ne sera sans doute pas remis en cause. Mais il faut savoir qu'en 2017, il y avait une montée très forte, de plus 16 points, par exemple, sur l'euro. Et là, elle est effacée, mais effacée simplement pour moitié. Et par rapport à 2016, on est toujours 8 points au-dessus. Dernier élément que je vais commenter, et qui sera probablement commenté aussi par le panel ici, c'est ce résultat assez étonnant sur la demande de plus d'intégration européenne. Ça n'est pas un chiffre anodin, c'est en gros, quelle que soit la question posée, autour de 75% des Français. C'est très significatif et la question est très explicite. On dit bien explicitement en la posant que plus d'intégration européenne signifie décider davantage au niveau européen plutôt que de laisser décider seul de sa politique. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a certains petits tassements dans haut. Le résultat est que c'est la coordination des politiques sur l'immigration et les réfugiés qui arrive en tête, mais c'est bien donc au niveau européen qu'on pense que ce problème doit être résolu, et non pas au niveau national. Et on a une remontée en bas, notamment des deux éléments qui sont antépénultième et avant-dernier, l'investissement dans les infrastructures, par exemple le plan Juncker qui fera l'objet d'une conférence, et la coordination des politiques économiques qui font un bond respectivement de plus 6 points et de plus 9 points. Et je dois dire que ce résultat m'a étonné. Ce n'est pas du tout ce qu'on entend dans les journaux, c'est un véritable appel à l'Europe auquel on assiste ici. Vous l'avez vu, à la différence du kaléidoscope, c'est un vrai roman photo avec un vrai message qui est envoyé par ce sondage.
Oui, on a là des résultats qui sont quand même très surprenants, parce qu'on attend beaucoup de l'Europe, visiblement, quand on interroge les Français, et ce n'est pas l'idée immédiate que l'on a. Alors, est-ce qu'on attend beaucoup de l'Europe parce qu'on a beaucoup de problèmes? Je pense, là, évidemment, poser la question à Sherazade, qui va être la mieux placée pour faire un peu de comparaison. On voit que nos Français nous disent... quand on regarde pourquoi il y a du chômage, ils ont tendance à avoir des défauts de notre système, où il y aurait des problèmes de prélèvement obligatoire, des problèmes de système éducatif, des choix politiques n'auraient pas été les plus efficaces peut-être par le passé. Et moi je me dis, en plus ils nous disent qu'il faudrait peut-être supprimer des règles ou des normes, en tout cas qu'il faudrait simplifier le système. Tout ça nous fait dire, est-ce qu'on fait vraiment plus mal que les autres pays européens? Et est-ce qu'on a besoin de l'Europe pour nous aider?
Alors, ce que j'ai trouvé étonnant ou rassurant dans l'étude Kantar Banque de France, c'est à quel point il était en ligne avec une étude, le Eurobaromètre, qui est standard 2018, qui est fait sur 27 pays, 28, lapsus, sur 28 pays européens, sur 27 000 personnes. Et les préoccupations au niveau européen des Européens des 27 000, c'est en premier l'immigration, c'est des endroits où ils pensent que l'Europe peut agir. Premier immigration, deuxième terrorisme, troisième la situation économique, quatrième les finances publiques des États membres et cinquième le chômage. Et quand ils demandent aux mêmes 27 000 personnes, donc sur 28 pays, quelles sont les préoccupations au niveau national, arrive en premier le chômage. En deuxième, le système de santé et de sécurité sociale. En troisième, l'immigration. En quatrième, hausse des prix. En cinquième, la retraite et les pensions. Et c'est extraordinaire comment on voit une attente au-delà de la France, je vous dirais, des citoyens européens sur le sujet politique et l'intégration d'un certain nombre de problèmes dont on sait pertinemment que la solution ne peut être qu'européen, avec la difficulté que les Français ont remarquée de... avoir 28 personnes ou 27 demain qui doivent décider ensemble. Donc on voit cette attente, et ça revient au micro-trottoir de la crise, de cette question sur les institutions. Les Européens et les Français, les Allemands, tous savent que la solution se trouve dans une décision européenne, surtout sur des sujets comme l'immigration. Moi j'ai passé une semaine cet été... vraiment sur l'immigration de Calais jusqu'à des centres de détention ou de renvoi volontaire en Belgique avec des personnes de la Commission. La solution est au niveau de l'Europe parce qu'il y a tellement de traités. Le traité de Dublin, il faut renvoyer les gens, les situations de comment on va les intégrer, qu'est-ce qu'une intégration, et on sait que tout ça c'est au niveau européen. Donc ce qui est assez étonnant, c'est par contre ce qui remonte dans ce sondage qui est peut-être plus proche à la France, c'est le PAC, Ça ne sort pas aussi haut au niveau européen, mais c'est normal, puisque je pense que l'enjeu pour la France est énorme. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment le chômage est vu peut-être comme une solution plus nationale, et ça touche aux problématiques bien sûr de l'éducation, mais aussi des normes, des prélèvements sociaux et de politiques de chaque pays. Mais quand on voit que la coordination fiscale est parmi les endroits, ça c'est aussi de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, d'avoir 9% de chômage en France contre 3 et quelques en Allemagne ou aux Pays-Bas, est-ce qu'il y a vraiment une disparité dans la zone euro et en Europe, que là encore, il y a sûrement une partie de la solution en Europe. Mais ce qui est étonnant, c'est ce sondage, vous pouvez le lire comme étant le sondage de 27 000 Européens de 28 pays. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire de savoir que les Allemands et les Français, c'est formidable que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il ne reste plus que de demander aux politiques d'être sur la même longueur d'onde.
Merci. Il y a quand même... Alors, est-ce que c'est notre bon sens paysan qui aurait déteint dans notre économie moderne? Il y a un pessimisme des Français qui est quand même assez récurrent, généralement, quand on regarde les sondages. Et là, quand on est sur la situation économique, on voit que les Français nous disent que la situation va relativement se détériorer. En tout cas, l'évolution est moins favorable, vous voyez, pour la France que pour l'Europe. Et je me demandais s'il y avait des explications à cette inquiétude récurrente et à cette dose de pessimisme. Et peut-être que Jérôme Ballet, avec ses clients, a peut-être une vision justement de qu'est-ce qui peut emporter cette analyse qu'on trouve quand même très souvent. Hein. On est un des pays les plus pessimistes d'Europe à chaque fois qu'on nous pose des questions sur la situation économique.
Alors absolument, moi ça m'a un peu surpris, on discutait précédemment, on n'est pas complètement d'accord, mais je trouve que le chiffre de moins 13% d'optimistes, donc divisé par deux sur un an, est quand même très fort. Alors certes, on a eu les explications, moi, mais ça m'incite pas à l'optimisme. Alors pour répondre à votre question, alors le pessimisme, on ne le retrouve pas uniquement dans l'économie. Hein. Vous l'avez dit, hein, les Français sont pessimistes, hein, toutes les études le montrent. Hein. Ils sont même parmi les plus malheureux au monde, j'ai lu ça, c'est quand même un petit peu inquiétant. Hein. Donc pessimisme sur l'éducation, pessimisme sur le travail, méfiance envers les politiques, méfiance envers les médias. Il y a eu beaucoup d'ouvrages qui sont sortis sur le déclin de la France, par exemple. Alors j'ai essayé de comprendre un peu tout ça. Et finalement, quand on essaye de comprendre d'où vient ce pessimisme, il y a plusieurs explications. Il y en a une que j'ai trouvée qui vient de notre éducation. On l'a évoqué tout à l'heure. Hein. En fait, on aura un système éducatif qui ne donne pas assez confiance en soi aux élèves. On a des exemples dans les pays nordiques, par exemple, on est beaucoup plus sur la responsabilisation, sur l'encouragement des enfants. Moi, je lisais un sondage, un de plus, 75% des élèves tremblent à l'idée de recevoir leurs notes. 75%, c'est énorme. Et moi, j'ai pris exemple sur ma fille qui tremblait ce matin à l'idée d'aller à l'école et d'avoir une note en maths. Quoi. Voilà, donc c'est vraiment un vrai sujet, quoi, cette idée-là. Et deuxièmement, alors j'ai lu des choses de Claudia Sénic, qui est un professeur d'économie à la Sorbonne, qui va même plus loin en disant que finalement ce pessimisme, quelque part, c'est notre culture, notre mentalité. Donc ça veut dire que ça va se perpétuer encore d'année en année. Et pour expliquer tout ça, elle dit même qu'on serait nostalgique de la grandeur perdue de la France, de l'influence qui a diminué au fil du temps, et du coup on aurait un doute sur notre destin collectif. Voilà. Alors si on en revient plus à l'économie, moi je vois trois raisons à ce pessimisme. Le premier, c'est le chômage. Le deuxième, c'est le pouvoir d'achat. Et le troisième, c'est la relation au travail. Alors sur le chômage, je vais être très bref, parce que tout a été dit hein, quasiment, mais depuis 40 ans, ça fait 40 ans que ça dure, que nous sommes inquiets pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos proches, etc. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet de pessimisme par rapport au chômage. Sur le pouvoir d'achat, c'est un petit peu différent, parce que je pense que c'est plus la perception du pouvoir d'achat qu'ont les Français. Moi, je vais vous donner un exemple. 86% des Français pensent que leur pouvoir d'achat va se dégrader, s'est dégradé en 2018, il va se dégrader en 2019. Quand on regarde les chiffres de l'INSEE, c'est pas tout à fait pareil. On a une hausse du pouvoir d'achat en 2017, et il devrait progresser en 2018 et en 2019. En fait, les Français, on l'a un peu dit tout à l'heure, les Français regardent plus les prix, l'augmentation des prix au quotidien, du pain, du café, de l'essence. Alors là, c'est pas une perception, c'est une réalité. Et beaucoup moins les choses qui baissent, hein, par exemple, comme les cotisations sociales qui ont quand même baissé sur le mois d'octobre, comme les taxes d'habitation qui devraient baisser pour bon nombre de Français. Et j'ai lu une phrase d'Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans les Vosges au printemps dernier qui disait « On regarde le centime d'euro que l'on perd, on ne regarde jamais le centime d'euro que l'on gagne. » Voilà. Et dernière chose, c'est sur la relation au travail. On a une relation au travail en France qui est un peu spécifique, je trouve, qui est pour certains vue comme une contrainte, comme quelque chose de pénible, voire même, j'ai lu, comme un asservissement. Vous voyez, ça va très loin. Quand on regarde les États-Unis, et je ne suis pas du tout pro-américain, mais finalement, on a une relation au travail qui est beaucoup plus structurante. On a une valeur travail qui est beaucoup plus structurante. On a finalement des débats un peu dépassionnés, des relations avec ses supérieurs qui sont beaucoup plus saines, des relations avec ses collègues qui sont beaucoup plus proches. Et finalement, on a une vraie fierté d'appartenance. Pour certains, c'est une seconde famille, voire une première famille. Voilà, donc moi, je vois bien ces trois raisons, pouvoir d'achat, chômage et effectivement relation au travail. Et pour finir, moi, je voudrais finir sur une note d'optimisme. Je trouve que nous sommes dans un pays formidable. On est quand même le pays le plus visité au monde, il ne faut pas l'oublier, donc il y a quand même des vraies raisons. Nous sommes dans une région très dynamique, on l'a dit. Il y a quand même des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat tous les jours. Il y a des créations de start-up à non plus finir. Donc j'ai envie de dire, soyons optimistes, mais allons de l'avant.
Merci. Et d'ailleurs, en entendant Jérôme Ballet, je me suis dit qu'il fallait que je vous mette une conférence sur un autre regard sur la France. C'est dans le programme des Journées de l'économie. Donc la France peut en effet faire un ensemble de choses. Tout n'est pas de la faute de l'Europe. Ça, je pense que c'est vraiment un des messages intéressants qui ressort, qui est le vôtre, celui du sondage. Nous allons pouvoir continuer, j'espère, dans des conditions normales, la conférence suivante, car Guillaume Pépi, visiblement, nous aurait bloqué un TGV qui va nous manquer, celui des intervenants qui devait arriver pour la conférence suivante. On n'aura peut-être qu'une partie des intervenants. Voilà, ça fait partie du suspense. Je n'ai pas la formation en direct, mais on va essayer quand même de commencer avec ceux qui ont pu prendre le TGV précédent. Merci.